Bonjour à tous. Tout chrétien né de nouveau est très vite confronté à des dilemmes dans sa vie quotidienne. En effet, tant que nous ne vivons que selon notre propre nature humaine, sans nous préoccuper des sollicitations de l'Esprit Saint, la vie est en principe assez simple, du moins en théorie. Nous faisons nos choix et nous en assumons tant bien que mal les conséquences. Certes, certains accusent toujours les autres et cherchent systématiquement un coupable. À tout ce qui leur arrive. D'autres accusent le sort, la malchance, le destin ou la scoumoune. D'autres se sentent systématiquement coupables et portent toute la misère du monde. D'autres encore se demandent qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire au bon Dieu pour que ça leur arrive à eux. N'est-ce pas ? Et crient systématiquement à l'injustice. J'ai rien fait de mal tout de même. Quelle que soit notre manière de réagir, tant que nous ne comptons que sur notre vieille nature humaine pour gérer notre vie, il n'y a pas vraiment de choix. Nous prenons nos décisions tout seuls, sans aide, et nous en assumons les conséquences. En fait, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Si nous faisons une erreur grave, nous pouvons le regretter tout le restant de notre vie, mais c'est trop tard. Ce qui est fait, et nous n'y pouvons plus rien. Il peut aussi nous arriver de faire quelque chose de bien et nous en sommes tout fiers, peut-être à juste titre. Au final, nous établissons régulièrement une sorte de bilan de notre vie passée en espérant que le positif l'emporte sur le négatif. Finalement, on n'est pas si mal que ça, non ? Mais dès que nous sommes nés de nouveau, dès que nous avons accepté Christ dans notre vie et reçu l'Esprit Saint, nous sommes un être nouveau et tout change. Nous découvrons peu à peu, chacun à notre rythme, parce que le Seigneur Jésus nous transforme à notre rythme, à son rythme à lui, mais en respectant le nôtre. Nous découvrons peu à peu, chacun à notre rythme, les avantages, mais aussi les exigences de la vie chrétienne. Nous sommes affranchis, c'est-à-dire libres vis-à-vis du péché et de la loi. Nous sommes sauvés pour la vie éternelle, mais aussi nous sommes appelés à être saints, car notre Seigneur est saint. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, à un moment ou à un autre, nous sommes inévitablement amenés à nous poser la question « Comment gérer ma vie, comment gérer notre vie de tous les jours chrétiennement ? » Qu'est-ce que Christ dira de notre vie actuelle quand nous comparaîtrons devant lui ? Notre conscience nous interroge, elle nous interroge sur nos comportements au quotidien. Que pouvons-nous en dire face à la parole de Dieu ? La parole plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, vous savez, qui sépare jointure et moelle. L'apôtre Paul nous donne un véritable guide de la vie chrétienne quand il s'adresse aux Romains. Merci Claude pour nous avoir aussi partagé des textes de l'Épître aux Romains ce matin. L'apôtre Paul nous donne un véritable guide de la vie chrétienne quand il s'adresse aux Romains, au chapitre 7 et 8. Alors il sera un petit peu long de lire aujourd'hui l'ensemble de ces deux chapitres. J'ai hésité vraiment à lire, mais ça prend une 20-25 minutes, donc voilà, ce sera un petit peu long. Toutefois, je vous invite très vivement à les relire et les méditer. Ils contiennent énormément de clés pour une vie pleine avec Jésus-Christ. J'en retiendrai trois ici de ces clés qui me paraissent fondamentales. La description de notre nature humaine. Le fait que nous sommes libérés du péché et libérés de la loi. et puis les conséquences que cela présente pour notre vie de chaque jour. L'apôtre Paul commence par rappeler la base de notre nature. Ça se situe au chapitre 7, à partir du verset 14, pour ceux qui voudraient suivre. Romains 7, verset 14. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe, moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Tout chrétien né de nouveau est parfaitement conscient de cette réalité. Je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Dans ma faiblesse humaine, je suis esclave de la loi du péché. Quelle situation désespérante. Trouvez pas ? Mais gloire à Dieu, il ne nous a pas abandonnés dans cette situation désespérante. En Jésus-Christ, le Père nous a donné la solution, la seule solution qui nous permet de sortir de cette impasse. Maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigés dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, versets 22 et 23. Mais attention, seul ce qui est confessé peut être purifié. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal, si nous confessons nos péchés. Nous qui croyons au Fils de Dieu, nous avons donc été libérés du péché. Nous avons aussi été libérés de la loi. Mes frères et sœurs, vous êtes morts à l'égard de la loi, en étant unis au corps du Christ. Ainsi, vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre les morts, afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu. Jésus-Christ, bien sûr. En effet, quand nous vivions selon notre propre nature, les désirs mauvais, excités par la loi, agissaient dans notre être tout entier et nous produisions ce qui mène à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Romains 7, versets 4 à 6. Nous sommes bien dans ces deux chapitres de l'Épître aux Romains. Le chrétien cesse d'être sous le joug de la loi lorsque, par son union avec le Christ mort et ressuscité, il est lui-même mort au péché et au désir de sa propre chair. Le chrétien cesse d'être sous le joug de la loi lorsque, par son union avec le Christ mort et ressuscité, il est lui-même mort au péché et au désir de sa propre chair. Est-ce à dire que nous sommes parfaits, que nous ne faisons plus d'erreurs? Certainement pas. Non, bien sûr. Seul Jésus a revêtu notre nature humaine en tout point et n'a jamais commis d'erreur. Tant que notre âme est dans notre corps terrestre, tant que notre esprit est attaqué par le mal au cours de combats spirituels, nous sommes susceptibles de faire des erreurs. Mais ce que je ne dois plus faire, c'est pécher volontairement. C'est pécher en toute connaissance de cause, en sachant très bien que je fais le mal. Ce que je ne dois plus faire, c'est continuer, persévérer dans un péché que je connais très bien. C'est continuer à cultiver un travers familier. Oui, c'est une déformation de famille, ça. C'est pas grave. Par exemple, c'est persister à dire des grossièretés ou des jurons. À qui il n'échappe pas un juron chaque semaine, excusez-moi. Pardon Seigneur, j'essaie de me corriger, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, ça n'a pas beaucoup progressé. Mais dire des grossièretés volontairement, les préparer, savoir et jurer volontairement, continuer, ne pas en demander pardon, c'est ça qui est continuer à pécher et qui est interdit. C'est s'emporter pour un oui, pour un non. C'est persister dans les mensonges, même pour des petites choses. Il n'y a pas de petits mensonges. Quand Christ a expiré sur la croix, tout a été accompli. Toutes les exigences de la loi ont été remplies. Non seulement pour lui-même, mais pour tous les êtres humains. Quand Christ a expiré sur la croix, tout a été accompli. Il s'est écrié « Tout est accompli », tout a été accompli à ce moment-là. Toutes les exigences de la loi ont été remplies, non seulement pour Christ lui-même, qui n'avait jamais péché, mais pour tous les êtres humains. C'est ce que nous rappelons chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Nous rappelons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Cette mort qui a été le résultat de notre désobéissance à la loi. Or, Christ, qui n'a jamais désobéi, a respecté totalement et entièrement la loi à notre place. C'est pourquoi, si nous croyons que Jésus est Fils de Dieu, si nous croyons qu'il est Dieu lui-même, si nous croyons qu'il a été aussi pleinement homme parmi les hommes et qu'il est mort pour nos péchés, alors nous sommes nous aussi morts au péché et à la loi. Et la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Est-ce à dire que la loi était mauvaise? Non. Non, dit l'apôtre Paul. Pour autant, la loi est sainte et bonne. Elle n'est pas du tout mauvaise en elle-même, mais le fait qu'il y ait des interdictions, même si ces interdictions sont pour notre bien, le fait même qu'il y ait des interdictions ajoutées à notre attrait naturel pour le fruit défendu, et ça a commencé au début de l'humanité, le fait même qu'il y ait des interdictions nous porte à faire ce que la loi défend. C'est ce qui produit notre mort spirituelle si nous n'acceptons pas Jésus comme sauveur. Par son sacrifice, Jésus-Christ non seulement nous a affranchis du péché, mais nous a libérés de la loi, la loi ne peut plus être utilisée par le malin pour faire naître en nous le péché. Alors à ce stade, nous avons vu combien notre nature humaine est fragile, combien elle est fragile face aux tentations et aux péchés. Et nous avons vu comment Dieu nous a libérés du péché et de la loi par Jésus-Christ, son Fils. Dès lors, quelles conséquences en tirons-nous pour notre vie de tous les jours? En fait, nous pouvons constater trois comportements différents, suivant le tempérament et l'état d'esprit de chacun. Ceux qui se sentent libres de toute contrainte, ceux qui font tous leurs efforts pour être parfaits, et puis ceux qui comprennent qu'ils ne peuvent rien faire seuls. Youpi, je suis libre, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Je crois en Jésus. Il a tout payé. Je suis sauvé. Quoi que je fasse, je peux faire tout ce qui me passe par la tête. C'est ce que j'appellerais le chrétien laxiste. Il vient de temps en temps au culte, quand ça le chante ou qu'il n'a rien d'autre à faire, et le reste du temps, il garde le comportement de sa nature humaine, sans rien changer. En fait, un tel homme n'a de chrétien que le nom, il se trompe lui-même. Une telle femme n'a de chrétienne que le nom, elle se trompe elle-même. C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je lui répondrai, dit l'apôtre Jacques, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Si nous avons réellement rencontré Jésus-Christ, notre vie est changée et nous ne pouvons plus agir selon notre bon vouloir. Avec l'apôtre Paul, nous disons « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Oui, nous sommes libérés, mais uniquement en vue de servir la gloire de Dieu. Sinon, nous nous croyons libres. Mais en fait, nous sommes toujours esclaves. À l'opposé, on trouve ceux qui font tous leurs efforts pour être parfaits, pour atteindre l'image du Maître. Maintenant, je suis racheté, je ne dois plus faire d'erreur, je ne dois plus pécher. Jésus a dit, voici le premier commandement. Écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, dit Jésus dans un autre évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Maintenant, je ne dois plus pécher, je dois être parfait. La loi m'indique ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Je sais intellectuellement que je suis libre de la loi, mais par obéissance, il me faut l'appliquer dans tous ses détails, sans aucune faille. A priori, rien à dire à cela. Quoi de plus beau que quelqu'un qui obéit parfaitement à la loi? N'est-ce pas? Le seul problème, comme dit Jean-Claude, c'est que c'est pas possible. Le seul problème, c'est que notre Seigneur Jésus excepté, personne n'est capable d'obéir parfaitement à la loi. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, dit l'apôtre Jean. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Celui qui pense être juste devant la loi se trompe lui-même. C'est un chrétien qui se débat sous le joug de la loi. Un légaliste. Nous avons eu les laxistes, nous avons les légalistes. Quelque part, il cherche à mériter son salut. Quelque part, il ou elle cherche à mériter son salut. Et ce faisant, il ou elle annule le sacrifice de Jésus pour lui. Ça, c'est écrit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Parce que j'ai tendance à être un peu légaliste sur les bords. Perfectionniste et légaliste. Parce que le perfectionniste, c'est un peu la même chose. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est ce qui m'a permis d'avancer dans cette difficulté. Quelque part, le légaliste cherche à mériter son salut. Ce faisant, il annule le sacrifice de Jésus pour lui. Puisqu'il décide de passer par la loi, il ne passe plus par la foi. Mais alors, que faire ? Laxiste, ça ne marche pas. Légaliste, ça ne mène à rien. Que nous soyons laxistes ou légalistes, un jour, il nous faut prendre conscience que nous ne pouvons rien faire seuls. Alors c'est vrai que ça peut arriver plusieurs fois, hein, parce que des fois on en prend bien conscience dans un domaine de notre vie, et puis dans un autre, hein, par exemple au boulot, on continue tel qu'on était avant. Bon, par contre le dimanche ou le soir, à la maison, ça a progressé, mais voilà. Il nous faut prendre conscience que nous ne pouvons rien faire seuls. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors vous me direz, tranquille, je ne suis pas riche. Ça va bien. Sauf que les disciples furent très étonnés, ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé dans ces conditions ? Ça s'adresse, qui peut être sauvé ? Et Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Là encore, on revient. Aucun homme ne peut gagner tout seul son salut, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Le seul moyen d'être sauvé, c'est donc de faire confiance à Dieu en Jésus-Christ. Si nous reconnaissons notre faiblesse, si nous vivons chaque jour à chaque heure, en sachant que sans lui nous ne pouvons rien faire, mais que par lui, avec lui, tout est possible, pour la gloire de Dieu. Si nous apprenons à lui demander son aide pour les toutes petites choses, comme pour les plus grandes, en sachant que nous sommes totalement dépendants de lui et qu'il n'attend qu'une demande de notre part pour agir, alors nous devenons des chrétiens christocentrés. En fait, nous devenons simplement des chrétiens. Nous pouvons donc alors servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Nous pouvons servir Dieu en nouveauté d'esprit, guidé par l'Esprit Saint, et non plus piloté par le légalisme ou par une vague envie de temps en temps. Chers frères et sœurs, nous avons coutume de dire, et je le prie souvent, vous l'aurez entendu, que Dieu voit tout, qu'il entend tout, qu'il peut tout, que rien n'est trop compliqué ou trop difficile pour lui, que rien ne lui échappe. Mais le croyons-nous vraiment ? Quand nous hésitons à lui confier une situation compliquée, difficile ou inextricable, ou au contraire, quand nous avons un petit problème que nous nous sentons tout à fait capables de résoudre par nous-mêmes, dans les deux cas, complexe ou tout simple, ou dans toutes les situations intermédiaires, bien entendu, si nous ne faisons pas appel à lui, est-ce que nous ne sommes pas en train de douter de la capacité de Dieu à intervenir dans nos vies ? Ou bien est-ce que nous ne sommes pas en train de nous dire que Dieu ne souhaite pas intervenir dans nos vies ? Après tout, qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi ? Dans les deux cas, nous sommes affectés d'une courte vue. Dieu est omniprésent et omnipotent. De plus, il nous dit, « Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Quelle que soit notre situation, Dieu veut nous donner un avenir à espérer. Ce texte se trouve dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Le, Le prophète ne cesse pas d'avertir de la part de Dieu, d'avertir Israël et d'avertir Juda, les deux parties du peuple élu, de les avertir du fait qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, du fait qu'ils ont abandonné Dieu, du fait que... Voilà. Et chaque fois, Dieu réaffirme qu'il l'aime, et qu'après une période difficile due au fait qu'il a été abandonné, et que chacun tombe, après cette période difficile, revient une période de bonheur, une période de joie, une période de renouveau. Le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il nous faut ajouter à cela, par-dessus tout, qu'il nous aime d'un amour parfait. Alors certes, notre nature est faible, mais Dieu nous aime tel que nous sommes et attend seulement que nous confessions nos péchés et que nous nous placions sous son aile. En Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Ainsi nous découvrons ou nous redécouvrons que la nouvelle naissance a fait de nous des enfants de Dieu. Ça a été rappelé lors de la présidence ce matin. Nous l'avons même chanté. Nous découvrons ou nous redécouvrons que la nouvelle naissance a fait de nous des enfants de Dieu, rachetés et purs aux yeux de Dieu, libres vis-à-vis du péché et de la loi, malgré la faiblesse de notre nature humaine. Le tout pour la gloire de notre Dieu. C'est ce qu'il a décidé. Gloire lui soit rendue. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Trouvons ça toujours dans l'Épître aux Romains. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10b. Père céleste, merci pour ton plan parfait. Merci pour ton amour. Seigneur Jésus, merci, car tu as tout accompli pour nous et tu fais de nous des enfants de Dieu, frères et sœurs. Saint-Esprit, merci de faire de nous chaque jour des chrétiens christocentrés, des chrétiens. Amen. Je vous invite à un moment de silence. Merci Père pour ton amour. Merci Seigneur Jésus car toi tout accompli. Merci Saint-Esprit car tu es notre paraclet, celui qui se tient à côté de nous pour nous défendre et nous inspirer, nous conduire. Amen.
Oui, bien sûr. Loïc va nous le trouver. L'amour de Dieu de loin surpasse.